78 milliards. C'est les records de profits battus lors des 9 premiers mois de l'année 2022 par les majors pétrolières européennes. Pourquoi ? Parce que depuis l'invasion russe en Ukraine, Total Energy, Shell, Eni et Repsol bénéficient d'un accès privilégié sans précédent auprès des décideurs européens. Avec plus de 3 rendez-vous par semaine avec les dirigeants de la Commission, elles ont pu retarder toute action politique décisive sur les marchés de l'énergie. Et elles ont poussé l'Europe à tout miser sur le gaz et les infrastructures gazières selon l'Observatoire des multinationales. Ensemble, nous allons essayer de décrypter la communication des majors pétrolières pour savoir quelle est vraiment leur influence. Est-ce qu'on peut parler de greenwashing lorsque les majors pétrolières montrent leurs actions pour lutter contre le changement climatique? Ou est-ce qu'au contraire, ces majors pétrolières, en fait, ne privilégient que les activités extractiviste? Est-ce que vraiment ces grandes entreprises qui ont des bénéfices de plus en plus importants peuvent géopolitiquement avoir de l'influence dans le combat contre le réchauffement climatique? You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. Nous devons d'abord noter que les pratiques auprès de la Commission européenne sont utilisées par de nombreuses autres firmes. Par exemple, les grandes banques européennes ont fait la même chose lors de la crise financière de 2008. Donnons des chiffres néanmoins pour appuyer nos propos, en expliquant que Total Energy a dépensé environ 2 100 000 euros de budget annuel de lobbying à Bruxelles pour 30 réunions entre janvier et février 2022. Shell a déboursé près de 4 300 000 euros pour 34 réunions au cours des mêmes dates. Évidemment, les majors pétrolières ont de l'influence sur la transition énergétique. Elles sont largement impliquées dans les débats climatiques, mais pas seulement, pour préserver des activités extractivistes. Le sommet climatique onusien de la COP28 a adopté des solutions d'abattement des émissions carbonées portées par les grandes compagnies pétrolières. On peut légitimement dire que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un début. On doit aussi noter la polémique autour de la nomination du président de la COP, Sultan Al-Jaber, jugé trop proche des milieux pétroliers. Un article d'Alternative économique est disponible en description pour aller plus loin. Mais les majors sont aussi et de loin les entreprises les plus présentes dans la transition énergétique. Lou Chabani pour National Geographic dit « Un rapport publié récemment par l'ONG Greenpeace fait état de l'omniprésence de Total Energy dans le domaine de la recherche scientifique. En finançant de nombreuses études, le pétrolier sera en mesure d'orienter la transition écologique. » Autrement dit, si Total Energy le veut, elle peut avoir de l'influence dans le bon sens. Ces financements se découpent en deux grandes parties. D'abord, de nombreux investissements dans la capture de carbone, ou du moins la recherche pour aller vers la capture de carbone, et aussi des financements de laboratoires de recherche dans de grandes écoles, comme la Sorbonne ou l'École Polytechnique. Ces seconds financements ont un tout autre objectif. Il s'agit pour Total Energy de se rapprocher des futures élites de la nation, d'assurer leur réseau, leur recrutement en tant que décideurs politiques. C'est en fait s'assurer que ces gens-là, ces élites-là, une fois en poste, continuent de porter une certaine vision de Total Energy. L'objectif global des financements pour la transition écologique des majors et de Total Energy, c'est de rester présent sur la scène publique, avec aussi de nombreux sponsorings dans l'ensemble des musées parisiens par exemple, ou d'événements sportifs comme la Coupe du Monde de rugby. En fait, Total Energy copie les stratégies des marques de tabac après que les preuves aient été apportées face au danger de la cigarette. Mais l'influence des majors ne s'arrête pas là. Il y en a qui sont beaucoup plus méconnus, avec par exemple l'utilisation d'influenceurs. L'objectif est ici de promouvoir un imaginaire et de regagner la confiance de générations qui sont sensibilisées à la crise climatique. C'est une méthode qui est mise en lumière par le média indépendant Desmog qui a enquêté sur les stratégies appliquées par les pétroliers sur les réseaux sociaux. Ces stratégies sont évidemment très proches du greenwashing. Les majors se placent comme des nouveaux leaders d'opinion. L'université d'Harvard en 2022, grâce à l'analyse de plus de 2300 messages sur les réseaux sociaux, a déterminé que 72% des publications de 22 pétroliers européens portaient sur leurs dépenses en matière de technologie verte. Pour autant, dans la globalité de leur budget, ces dépenses-là ne représentent qu'une petite partie. Un autre type de communication, encore plus puissante, est celle des majors pétroliers qui sont en fait des compagnies nationales. Alors, le poids des majors pétroliers est à relativiser, comme le dit Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, qui évoque une attention parfois disproportionnée autour des principales compagnies privées internationales. Outre Total Energy, l'AIE classe comme tel les Américains ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips, mais aussi l'anglo-néerlandais Shell, le britannique BP et l'italien Eni. Selon le directeur de The Shift Project, Jean-Marc Jancovici, les majors sont en fait des minors. On peut en fait dire que le changement global des moyens de communication permet aux majors pétrolières d'influencer la géopolitique. Les majors européennes, comme Total Energy et Shell, deviennent des énergéticiens généralistes utilisant l'extraordinaire capital généré par leurs mannes pétrolières en vue de financer les acquisitions dans des énergies renouvelables, tout en ne baissant pas la production d'hydrocarbures selon la revue Hérodote. On comprend donc que oui, les majors investissent dans le vert, mais que non, elles ne baissent pas la production d'or noir. En fait, elles cherchent à gagner encore plus d'argent en s'alignant sur les seconds points. On peut alors apporter une réponse claire et précise à notre question de base. Est-ce que les majors pétrolières peuvent nous aider dans un combat de transition écologique ? Il semble que oui, à une seule condition, que les énergies vertes fassent gagner plus d'argent que le pétrole. D'où l'importance de la recherche et du développement. Cette recherche et développement s'accélère sur à peu près tous les continents et nous devons noter que le continent africain reste encore à quai et que dans le cadre de la transition écologique et d'une vision géopolitique, nous pouvons nous inquiéter de l'avenir de ce continent.
L'année 2023 s'est terminée par l'ouverture de nouveaux fronts dans le monde. Je pense bien sûr, vous en doutez, à la guerre qui se déroule au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, depuis que ce dernier, groupe terroriste, je le rappelle, a attaqué l'État hébreu le 7 octobre 2023. Mais l'année 2023 s'est également achevée par les traditionnels vœux des chefs d'État, et ce partout à travers le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que si Emmanuel Macron nous a promis un millésime français pour 2024, ses homologues, notamment chinois et russes, eux, n'ont pas adopté le même ton et se sont montrés plus provocateurs avec des propos à la fois très clairs, offensifs, mais aussi assez inquiétants. Encore une fois, je le répète, ma chronique n'a pas vocation à créer un climat anxiogène, mais elle se veut le point de départ d'un débat, d'une réflexion quant aux perspectives géopolitiques de notre monde. Nous devons prendre de la hauteur, alors c'est parti pour la chronique Hard Power qui s'intitule aujourd'hui « Naviguer dans un monde en mutation, sécurité et défense en 2024 ». Bienvenue dans Hard Power, une chronique du géopolitique qui analyse les enjeux de défense et de sécurité à l'international. Antoine vous accompagne au cœur de la géopolitique mondiale avec sérieux et légèreté.
Tu nous parlais dans ton introduction des vœux présidentiels de Xi Jinping et de Vladimir Poutine. En quoi ceux-ci sont-ils inquiétants ? Ce sont tes mots, Antoine, pour la sécurité mondiale.
En effet, les deux leaders qui pèsent un poids important sur la scène internationale ont tous deux, de manière différente, sorti les griffes lors d'un message destiné à leurs nations respectives. L'un, Xi Jinping, a clairement réaffirmé et renouvelé sa volonté d'annexer Taïwan en disant, je cite, « Tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan devraient être liés par un but commun et partager la gloire du renouveau de la nation chinoise. Je crois que je n'ai pas besoin d'ajouter beaucoup d'autres choses sur ce point. Vous comprenez aisément l'idée qu'a en tête celui qui s'est vu reconduit en tant que président de la République populaire de Chine pour un troisième mandat en mars 2023. » Le second, Vladimir Poutine, donc, continue quant à lui de s'entêter dans une guerre qu'il a lui-même déclenchée en février 2024 contre le voisin ukrainien, avec comme objectif soi-disant de dénazifier l'Ukraine. Lors de ses vœux, il a lui aussi réitéré sa volonté de poursuivre cet effort de guerre et il a affirmé, je cite, « Nous ne reculerons jamais car aucune force ne peut nous diviser ». Ces dernières semaines, la mise en échec de la contre-offensive ukrainienne semble lui donner raison et remotive quelque peu des troupes qui avaient jusque-là davantage subi. On le comprend donc, d'un côté la guerre n'est pas une réalité présente, mais pourrait le devenir, surtout si Xi Jinping voit que la situation lui échappe avec les élections à Taïwan et la victoire d'un pro-indépendantiste William Lai. De l'autre côté, la guerre est déjà en cours et elle n'est pas prête de s'arrêter car Poutine veut prouver à l'Occident, son ennemi juré, qu'il est bien à la tête d'une puissance fière et retrouvée comme au temps soviétique.
Tu as mentionné les élections à Taïwan. Il me semble que ce ne sont pas les seules qui auront lieu cette année. Et quel impact peuvent-elles avoir sur la géopolitique sécuritaire mondiale ?
2024 sera effectivement une année électorale record. La moitié de la population mondiale en âge de voter est appelée aux urnes lors de scrutins libres ou déjà joués d'avance. Outre Taïwan, que je viens d'énoncer, trois autres élections auront un impact au niveau mondial. D'abord, et je vais commencer par celle-ci car elle ne devrait pas nous réserver beaucoup de surprises, il y aura des élections en Russie et je suis certain que je ne vais guère vous surprendre, vous auditeurs, si je vous dis que Vladimir Poutine sera élu président de la Fédération de Russie. Nous pouvons parier, je pense que je ne prends pas énormément de risques. Cette élection lui permettra de se voir confier, quoique confier est un grand mot, un cinquième mandat et il poursuivra sa politique offensive en Ukraine notamment. Cela présage rien de bon pour le peuple ukrainien malheureusement. Surtout que les deux autres élections que je veux mentionner avec vous auront elles aussi une incidence majeure sur le devenir du conflit. Premièrement, les élections européennes pourraient bien être un triomphe pour les partis nationalistes. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils obtiendront une majorité au Parlement européen, mais ils pourraient ne donner au Parlement aucune majorité absolue et venir, comme c'est le cas en France à l'Assemblée nationale, créer une situation de blocage dans une Europe déjà rouillée et grippée par la bureaucratie et des prises de décisions lentes, notamment du fait de son extension avec 27 pays. Or, le Parlement vote le budget, et par conséquent, on pourrait voir les aides militaires à l'Ukraine chuter drastiquement comme le souhaiterait aujourd'hui Viktor Orban. Enfin, l'élection que tout le monde redoute et observera cette année, c'est celle américaine, qui devrait voir le match retour entre Joe Biden et Donald Trump se dérouler. Là aussi, l'élection du républicain pourrait faire trembler Kiev, car Donald Trump a déjà annoncé qu'il serait plus enclin à soutenir l'allié israélien plutôt que le peuple ukrainien. La guerre en Ukraine pourrait donc bien connaître des bouleversements majeurs en 2024 au vu des élections qui pourraient rabattre les cartes et ouvrir le champ de bataille à Moscou. Poutine se frotterait alors les mains.
Outre ce front en Ukraine, je crois qu'une autre zone est à surveiller, n'est-ce pas Antoine ? Il me semble que c'est le Moyen-Orient, est-ce que tu peux nous apporter des précisions ?
Bien au-delà du Moyen-Orient, ma chère Manon, c'est l'arc des crises, concept géopolitique élaboré par Brzezinski et Lévis, qui semble aujourd'hui le mieux correspondre à la situation actuelle, une situation instable, c'est le moins que l'on puisse dire, du Sahel jusqu'à l'Asie centrale. Certes, dans cette zone, je te l'accorde, le Proche-Orient est l'épicentre et les récents événements ne font que confirmer la vulnérabilité de cette zone moyen-orientale. La poudrière du monde est bien là, avec des points névralgiques tellement nombreux que difficilement recensables. Bien sûr, et Benjamin Netanyahou l'a confirmé, la guerre entre Tsahal, l'armée israélienne, et le groupe terroriste du Hamas durera le temps qu'il faudra pour éradiquer totalement la menace palestinienne. Mais ce conflit a réactivé également d'autres tensions, qui somnolaient mais qui n'étaient pas endormies. C'est ainsi que deux groupes ont ces dernières semaines attiré l'attention. Vous me voyez arriver, il s'agit bien sûr du Hezbollah, groupe libanais, considéré lui aussi comme terroriste par nombre de pays occidentaux, dont l'Union européenne, et puis le groupe des rebelles Houthis au Yémen, sur lequel je reviendrai vraisemblablement dans ma chronique de la semaine prochaine. Et vous savez ce qu'ont en commun ces deux groupes ?
Non, pas du tout, mais tu vas nous le dire, n'est-ce pas Antoine ?
Eh bien, tous deux ont des liens plus ou moins étroits avec la République islamique d'Iran, discret instigateur. Le Hezbollah pourrait ouvrir un front au nord d'Israël, comme on l'avait vu en 1982 avec l'offensive israélienne au sud Liban, et puis les rebelles yéménites pourraient eux venir perturber grandement le commerce maritime mondial en mer Rouge, voire même les scénarios catastrophes, le canal de Suez. Mais comme je le disais aussi, il s'agit d'élargir notre regard pour voir que les différents coups d'État que nous avons vus en Afrique, au Niger notamment, pourraient eux aussi voir des répercussions mondiales avec l'influence russe et chinoise au détriment de celle française et surtout des groupes terroristes qui se réimplantent là-bas par ailleurs. L'arc des crises n'est donc pas un concept obsolète ou dépassé, mais paraît de nos jours plus vrai que jamais.
Pour finir, tu voulais aborder, je crois, la question des alliances.
Oui, face à ces perspectives et à ces défis auxquels nous sommes d'ores et déjà confrontés et qui vont, semble-t-il, émailler le monde en 2024, la coopération internationale devient cruciale. Les organisations telles que l'ONU et l'OTAN devraient avoir un rôle central mais sont aujourd'hui tétanisées et n'ont guère de prise sur ces conflits. Des réformes nécessaires pour les adapter aux réalités contemporaines devront donc se mettre en place, dans le cas contraire, elles rentreront en hibernation. De nouvelles coalitions se forment en revanche pour aborder des questions spécifiques, créant un réseau complexe d'acteurs internationaux. Depuis le 1er janvier, la famille des BRICS s'est agrandie, et bien que les Russes et les Chinois demeurent les puissances maternelles et rassurantes, l'Inde tente aussi de s'imposer, et cette famille semble plutôt une alliance afin de permettre une diversification des échanges et de partenaires commerciaux, plutôt qu'une alliance de défense mutuelle, car les réalités étatiques, les aspirations et les idéologies ne sont pas vraiment identiques entre ces 10 membres dorénavant. L'année 2024 s'annonce donc comme une période cruciale sur le plan géopolitique et cela n'est qu'un euphémisme. Les dynamiques changeantes entre les grandes puissances, les défis sécuritaires régionaux, les nouvelles menaces technologiques que je n'ai pas abordées faute de temps et les réponses internationales détermineront la trajectoire du monde dans les années à venir. La nécessité d'une diplomatie habile, d'une coopération renforcée et d'innovation en matière de sécurité et de défense est plus pressante que jamais. Nous entrons dans une année marquée par des évolutions majeures sur l'échiquier mondial. Les relations internationales sont complexes, les alliances se redéfinissent et les enjeux de sécurité et de défense sont plus aigus que jamais. Des points névralgiques apparaissent chaque jour, mettant à rude épreuve la stabilité et la sécurité mondiale, qu'elles soient économiques, alimentaires, humanitaires, sanitaires et j'en passe. Face à cela, quel remède ? La lucidité, la coopération et la voie diplomatique semblent les meilleures armes. Mais alors que la course au réarmement s'accélère justement et que le jeu des puissances fait son grand retour, nous nous devons d'être attentifs et nous devons nous adapter. La France, ce vieux pays d'un vieux continent, a un rôle à jouer, une place à retrouver alors que depuis quelques années maintenant elle se fait bousculer. Un nouvel équilibre mondial est en place, il s'agit de naviguer dans l'incertitude tout en prenant de la hauteur, en anticipant les menaces, en construisant des alliances et en faisant de la souveraineté une priorité. Alors que 4,1 milliards d'électeurs sont appelés aux urnes cette année aux quatre coins de la planète, prenons le temps de la réflexion face à l'instantanéité afin de faire de chaque défi abordé une opportunité de pacifier et d'unir, mais ne croyons pas toutefois à la pacification totale et utopique. Quand même, à le dire Sahar Khalifa, femme de lettres palestinienne, un esprit lucide est un cran de sûreté. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette chronique. À la semaine prochaine. You say you wanna be a star.
Les GAFAM ou Big Five sont omniprésents dans nos vies. Qu'on cherche à se diriger, à trouver des informations en ligne, à communiquer ou encore à se divertir. Ils sont au nombre de 5 et ce sont littéralement les géants des nouvelles technologies. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ils ont le monopole dans leur domaine et disposent d'une influence et d'un pouvoir inédits. Ils se sont développés extrêmement rapidement de pair avec l'essor d'Internet et ont aujourd'hui des chiffres d'affaires vertigineux. Ils représentent alors en quelque sorte le symbole du rêve américain et de la réussite. Le développement de ces entreprises est exponentiel et elles exercent une véritable domination sur la planète. Cela se ressent au travers de leur capacité d'investissement et d'innovation notamment. On peut par exemple voir Apple se lancer dans le secteur bancaire. Néanmoins, cette influence majeure que possèdent ces entreprises a également ses zones d'ombre et ce pour plusieurs raisons. D'une part, de par le monopole qu'elles occupent, ces entreprises deviennent presque inquiétantes, car si elles nous sont devenues essentielles, nous payons en retour un lourd tribut, celui de nos données. La vente et la gestion des données par les GAFAM est un sujet phare, notamment au sein de l'Union européenne, puisque l'on cherche à protéger l'utilisateur. Le Règlement général de la protection des données, RGPD, en est la preuve. On souhaite encadrer l'action de ces géants du numérique et l'on souhaite rendre l'utilisateur davantage conscient de l'action de ces entreprises ainsi que de le préserver. La seconde chose que l'on pourrait reprocher à ces GAFAM, c'est qu'au travers du monopole qu'elles exercent, elles ont le pouvoir incontestable de décider. Google comptabilise 90% des requêtes Internet, ce qui signifie qu'il a la main mise sur ce que les utilisateurs vont voir en premier. Ils ont ainsi le pouvoir de promouvoir certains contenus et d'en effacer d'autres. Cela peut complètement affecter la perception du monde des utilisateurs, mais aussi causer un manque drastique de diversité. Évidemment, la thématique des algorithmes est aux sources de ces deux conflits, puisqu'ils ont tendance à enfermer l'utilisateur dans une bulle en ne le confrontant qu'à des contenus similaires à ceux qu'il a déjà consultés. Ainsi, cela construit en quelque sorte une réalité alternative. En ce qui concerne le pouvoir que peuvent exercer ces GAFAM, on peut bien entendu citer l'exemple du scandale de Cambridge Analytica, où l'entreprise a été accusée d'avoir utilisé des données de dizaines de millions d'utilisateurs Facebook, et ce, sans leur consentement. On voit alors l'influence terrible que peut avoir un géant comme Facebook, et on peut constater que cela peut avoir des résultats aussi conséquents que ceux d'impacter des scrutins officiels tels que le référendum du Brexit ou encore les élections présidentielles américaines. Ce qui est également pertinent d'étudier, c'est le rôle des entreprises ultra-puissantes dans la compétition sino-américaine. On voit que certes, les Américains ont été pionniers en la matière, mais la Chine n'est pas très loin et elle n'a pas mis longtemps avant d'aller elle-même se lancer dans la bataille avec ses BATX. On a donc des entreprises chinoises très similaires aux américaines que sont Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui marquent la montée en puissance des Chinois dans le domaine en un temps record. Xi Jinping lui-même a d'ailleurs déclaré en 2015 vouloir faire de la Chine une cyberpuissance et aujourd'hui, son objectif semble largement atteint. Effectivement, si les BATX ont pendant un temps vu leur utilisation se limiter au territoire chinois, on peut désormais voir des entreprises chinoises concurrencer les GAFAM dans les pays occidentaux. On peut évidemment citer TikTok, application qui connaît un succès transcendant et qui s'est propagée de façon sidérante. Cela peut alors préfigurer un symbole de la perte de vitesse des États-Unis face à la Chine, puisque comme le dit Nicolas Masucci, rien ne retient l'utilisateur. Si demain un concurrent propose un service plus ergonomique ou plus adapté, il aura tendance à aller vers celui-ci. Néanmoins, il est important de nuancer ceci, puisqu'aujourd'hui, toujours, les États-Unis gardent leur place de leader incontesté.
Bienvenue dans la Grande Réorientation, une chronique du géopolitique menée avec brio par Lamia. 5 minutes de décryptage pour comprendre sans détour la géopolitique du Grand Moyen-Orient.
Surnommée la plus grande démocratie du monde aujourd'hui, l'Inde obtient son indépendance en 1947 et autrefois elle était surnommée le joyau de la couronne britannique puisque l'Inde est une ancienne colonie britannique. Aujourd'hui, on compte 1,4 milliard d'habitants, c'est donc le pays le plus peuplé au monde. Et l'Inde entretient des frontières avec le Pakistan, le Bangladesh, la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie, la Chine, mais aussi le Népal. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la question religieuse dans ce pays que l'on peut qualifier de multiconfessionnel, même si deux religions dominent, en particulier une, qui est celle de l'hindouisme, qui concerne près de 72,5% des habitants de l'Inde, et notamment son rapport avec la religion musulmane. Et donc, ce qui est intéressant dans le cas de l'Inde, c'est d'observer la cohabitation entre ces deux religions et surtout leur rapport avec la laïcité.
Effectivement, l'Inde est laïque dans les textes, mais en vérité, qu'est-ce que ça donne là-bas ?
On peut difficilement affirmer justement que l'Inde est laïque. Ce qu'on peut affirmer, c'est que l'Inde, elle est concernée par un concept qu'on appelle le sécularisme, qui désigne une forme de laïcité différente de celle que l'on connaît en France, par exemple, puisqu'elle ne fait pas référence à la sécularisation ou au modèle français. En effet, cette laïcité à l'indienne, en fait, elle offre un regard très particulier envers les religions, puisqu'elle les reconnaît toutes. La Constitution dit donc que l'Inde reconnaît avec la même bienveillance toutes les religions, hein, c'est donc le terme de bienveillance qui est employé, mais elle n'opère pas explicitement de séparation entre le religieux et le politique, ce qu'on voit donc clairement en France par exemple. Donc cette notion de sécularisme, elle paraît dans la Constitution. On n'a pas le terme d'un État sécularisé. Et en fait, c'est une notion qui va se forger lors d'un contexte historique sur lequel on va revenir plus tard. Mais en tout cas, ce qu'il se passe, c'est qu'on a une ambivalence dans le cas indien. Le gouvernement va à la fois reconnaître les religions, on aura l'infiltration de la sphère religieuse dans la sphère politique, sur laquelle on va revenir aussi. Mais dans les textes, et surtout dans son image à l'international, notamment dans sa diplomatie, le Premier ministre de l'Inde, aujourd'hui Narendra Modi, du parti politique du BJP, se veut le porte-parole d'une Inde multiculturelle qui reconnaît autant de personnes qui vivent sur le pays, ainsi que leurs particularités.
Et est-ce qu'il y a peut-être un processus historique qui a mené à ce sécularisme justement en Inde ?
Le sécularisme, c'est une valeur qui va être voulue dès 1947. Alors 1947, j'ai déjà dit, mais c'est l'indépendance de l'Inde qui va précéder ensuite celle du Pakistan. Et en fait, c'est une des valeurs qui est voulue par les fondateurs de l'Inde. Peut-être que je vous apprends quelque chose, mais l'un des fondateurs de l'Inde, c'est donc le Mahatma Gandhi, qui va se battre fermement, notamment pour certaines valeurs comme celle de la non-violence. Mais au-delà de ça, pendant cette indépendance très douloureuse, qui est celle de l'Inde, notamment puisque, en fait, après le retrait des Britanniques, on aura des guerres multiconfessionnelles au sein du territoire entre justement les hindous et les musulmans, ce qui va entraîner la création du Pakistan qui va prendre son indépendance en 1948. Mais en tout cas, mis à part cette scission des Indes britanniques en deux, le point de vue de Gandhi, c'était justement qu'au sein de l'Inde pouvaient cohabiter différentes religions. Il a même donc une citation qui est, je cite, « Nulle part au monde, religion et nationalité ne peuvent être synonymes ». On voit bien qu'avec la création du Pakistan, tous ces vœux ne se sont pas véritablement réalisés. Mais en tout cas, ce parti du Congrès, donc celui de Gandhi, et plus tard de Nehru, pardon, qui est donc son successeur, s'attachera à défendre la valeur qu'est le sécularisme. Il faut savoir également que Gandhi a été assassiné par un extrémiste hindou d'une ligue paramilitaire qui s'appelle le RSS et qui entretient aujourd'hui des liens étroits avec le parti du premier ministre au pouvoir qui est celui du BJP. Alors, le principe de ce sécularisme indien, qui a donc une prégnance historique assez forte, c'est qu'il n'y a donc pas de religion d'État, qui ne doit pas être incarnée par un personnage politique, et que surtout, toutes les religions sont mises sur les mêmes piédestals, et surtout qu'il n'y a pas de discrimination envers une religion ou une autre. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les textes, donc la liberté religieuse est complètement garantie et protégée par la Constitution de 1950. Le code pénal punit par ailleurs la discrimination religieuse, pour venir appuyer ce que je disais tout à l'heure. La religion est tout de même très présente dans l'espace public. Vous le savez sûrement, mais typiquement, le système de caste en Inde, il vient de la religion hindoue. Et c'est un système qui est toujours effectif dans ce pays, donc ça montre bien qu'en réalité, la religion a une place très importante dans l'espace public. Et d'ailleurs, l'article 25 de la Constitution, qui est intéressant, je trouve, explicite que chaque Indien peut diffuser sa propre religion à l'armée. Or, on peut considérer de notre point de vue très français et très occidentale, que l'armée est censée être laïque puisqu'elle défend les intérêts d'une nation, et que si la nation est séparée de la religion, eh bien la religion n'a rien à faire à l'armée. Eh bien vous voyez bien que ça n'est pas le cas partout, et typiquement dans le cas particulier de l'Inde, on autorise en fait les nouvelles recrues à prêter serment sur un livre saint à la manière de la présidence américaine. Autre élément de cette multiconfessionnalité, c'est celui du drapeau de l'Inde, donc orange, blanc et vert. Au milieu, on a la roue du Dharma, qui est donc un symbole de l'hindouisme. Le orange, c'est la couleur de l'hindouisme, c'est donc la couleur du renoncement. Le blanc, c'est la couleur de la paix, donc qui symbolise les autres religions, l'ouverture, etc. Et le vert, c'est la couleur de l'islam. On a donc bien, même dans le symbole de l'Inde, une volonté de mettre toutes les communautés sur un pied d'égalité. Pour résumer un peu ce que je disais, en fait, en Inde, on peut parler d'une laïcité que l'on surnomme positive. La laïcité française, on la surnomme une laïcité de séparation. La laïcité de Mustafa Kemal, on l'a surnommée une laïcité de contrôle. La laïcité à l'indienne, c'est une laïcité positive qui, en fait, sur certains aspects, rejoint la laïcité à l'américaine avec cette idée de religion civile et de prégnance de la religion partout dans l'espace public. Hein. Donc, typiquement, le fait de prêter serment, ça revient aux États-Unis. Le fameux In God We Trust, mis en place par Eisenhower sur les billets de banque, pareil, c'est quelque chose, c'est toute une mentalité qu'on retrouve également dans le cas indien.
Parfait, mais ne comporte-t-il aucune ombre ?
Oui, ben c'est bien pour ça que je vous en parle, puisque dans les textes et par rapport au contexte historique, on peut percevoir l'Inde voilà, comme ce pays multiconfessionnel qui accueille autant par son drapeau que par sa constitution toutes les religions et toutes les confessions différentes. En réalité, ce sécularisme à l'indienne, il est menacé par un élément principal, c'est celui de l'hindouisme politique. Alors l'hindouisme politique, c'est quoi ? Donc l'hindouisme, ça vient de la religion hindoue, qui est donc instrumentalisée à des fins politiques. C'est bien pour ça que tout ce que je vais décrire dans cette partie ne concerne pas la religion hindoue, mais bien l'instrumentalisation de cette religion à des fins très radicales et à des fins politiques. Alors le sécularisme, il n'a pas toujours été accepté, et ça depuis l'indépendance de l'Inde en fait, puisque je vous ai parlé du parti du Congrès, celui de Nehru et celui de Gandhi tout à l'heure. Ce parti politique, il s'opposait à celui donc de nationalistes hindous qui pensaient justement que l'hindouisme faisait partie de l'identité indienne. Je vous ai également parlé donc de l'organisation du groupe paramilitaire du RSS, c'est donc une association de volontaires donc d'hindous pro-hindouiste qui véhicule cette idéologie de l'hindouisme politique qui a été créée dans les années 20 et qui s'apparente avec certains guillemets un modèle fasciste à l'européenne qui voudrait qu'en fait une religion guide et formate chacun des citoyens indiens. Il y a une idée, un principe qui ressort dans cet hindouisme politique, c'est celui de l'hindutva. Alors l'hindutva, c'est donc un mot qui n'est pas français, hein. En français ça donne l'hindouité, dans la traduction mot à mot. C'est-à-dire que pour les partisans de cette hindouité, de cette hindutva, un indien doit être un hindou. On ne peut pas penser l'indien sans penser l'hindouisme, et on ne peut pas séparer ces deux concepts-là. Le corollaire de ce concept, c'est quoi ? C'est qu'un musulman n'est donc pas considéré comme un indien. On a une redéfinition complète de l'identité et de la nationalité indienne sur la base de l'hindouisme. Et ce principe de l'hindutva, il s'oppose donc complètement au sécularisme que j'ai passé quelques temps à vous expliquer tout à l'heure. Les autres religions, à ce moment-là, sont donc tolérées, mais ne doivent pas être exercées dans l'espace public, étant donné que politiquement et médiatiquement, c'est la religion hindoue qui doit d'abord ressortir. Alors les trois principes de cette hindutva, c'est donc Hindi, Hindu, Hindustan. Hindi, c'est la langue majoritairement parlée en Inde, donc ça s'appelle voilà, le Hindi. Hindu, c'est la religion, l'hindouisme, et Hindustan, c'est donc une expression, donc Hindustan, Pakistan, en fait, ça désigne le territoire, donc le pays, la nation, sous l'égide de la religion hindoue. Et donc, il se trouve que le premier ministre indien actuel, c'est donc Narendra Modi, hein, qui est partisan de la droite indienne et hindoue, partisan de l'hindouisme. Donc, son parti politique s'appelle le BJP, et il mène une politique aujourd'hui qui est clairement nationaliste, qui met en avant l'hindouisme en dépit de toutes les autres religions. On a quelques mesures voilà, que je peux détailler rapidement, mais par exemple, dans la religion hindoue, la vache, c'est un animal sacré, et donc, typiquement, l'abattage des vaches est interdit, c'est-à-dire qu'en fait, on étend une valeur religieuse à l'ensemble d'un pays qui se veut ne faire de différence entre aucune religion. On a également toutes les boutiques des tanneurs qui sont interdites. Forcément, ça vient de la vache. Donc, en général, le Taj Mahal, alors ça, c'est assez incroyable. Le Taj Mahal, vous le savez, donc l'une des merveilles du monde, a été construit pour la femme d'un empereur. Et en fait, à l'origine, c'était un mausolée. Et l'architecte qui a construit le Taj Mahal était donc un architecte musulman. Et devinez quoi ? Le Taj Mahal est effacé des guides touristiques en Inde. Ce serait en fait la promotion d'un élément d'architecture qui ne fait pas partie de l'identité indienne, puisque ça n'a pas été réalisé par des hindous. Donc depuis voilà, les années 80, ce parti politique il prend de l'importance, qui est complètement extrémiste et qui a donc recruté beaucoup de membres du RSS. Et voilà, historiquement, il s'oppose à celui de Gandhi. On a également des événements bien plus violents hein, qui ont lieu assez régulièrement, notamment des ratonnades en fait qui ont lieu, qui sont dites spontanées, mais en réalité, on soupçonne qu'elles sont entretenues par des idéaux politiques dans des quartiers musulmans, parce que en fait, on a une grande majorité des musulmans qui sont partis au Pakistan en 1947, mais aujourd'hui, on a quand même approximativement 10 à 15% de la population qui est musulmane en Inde. Je terminerai voilà sur Narendra Modi, qui a d'ailleurs, ironiquement, reçu, je le rappelle, la Légion d'honneur que Emmanuel Macron lui a gracieusement transmise il y a quelques mois. Voilà, qui a une rhétorique clairement populiste. Hein, quand vous allez voir son compte sur les réseaux sociaux, on voit à la Poutine en fait galopant sur un cheval ou alors dans un bateau en regardant l'horizon. Donc voilà, il y a des éléments qui ressortent quand même énormément. Et donc voilà, je finirai sur cette neutralité de l'État qui est complètement remise en question par la montée de l'hindouisme politique, contrairement au comportement bienveillant. Je le rappelle, que voulait la Constitution, en sachant que Narendra Modi reçoit tous les honneurs à l'international.
Merci Lamia pour tous ces éclaircissements. Et si vous voulez plus d'informations sur l'Inde, vous pouvez toujours aller écouter l'épisode de l'Inde, Grandir ou Périr. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Restez connectés et prenez soin de vous. You say you wanna be a star, but the city is so dense and low.